Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca. C'est le tome 36, le chapitre 388 de Mission Encre Noire qui commence. De mes visites à Québec, j'ai appris que, comme dans l'antique cité d'Ultar, une loi interdit de tuer les chats, créatures métissées par excellence. L'origine de ce décret se dissipe dans les abysses de la mémoire. On chuchote, dans les ruelles, que les chats sont les gardiens de cette cité, murée à l'abri du temps. Québec et ses flèches d'argent innombrables sur lesquelles viennent jouer les rayons du soleil, ses terribles remparts et ses formidables fortifications, ses labyrinthes de maisons pittoresques. Pour qui sait, comme moi, décrypter les signes, il suffit de suivre au crépuscule le parcours des félins qui se faufilent dans ce labyrinthe de venelle. S'ouvre alors l'histoire bâillonnée de la ville. Ce sont les chats qui m'ont raconté comment, en 1627, Richelieu, prince du culte félin, créa avec l'aval de Champlain un nouveau monopole qui se répandit comme de la vermine, la compagnie des 100 chogottes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de La Cité Oblique de Christian Quesnel et Ariane Gélinas, paru en 2022 aux éditions Alto. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle saison de Mission Encre Noire. Ne changeons rien aux bonnes habitudes. Depuis une dizaine d'années, je vous offre de rencontrer les voix qui font le sel de l'actualité littéraire d'ici et d'ailleurs. Et pour débuter ce 388e épisode, j'entends les premiers grattements et frottements de créatures étranges et primitives qui débordent à la lucarne de cette splendide bande dessinée, La Cité Oblique, qui nous propose de franchir les portes de l'univers formidable d'un géant de la littérature fantastique, inspiré par les voyages de celui-ci, Howard Phillips Lovecraft lui-même. Le créateur du mythe de Cthulhu a non seulement rendu visite par trois reprises à la ville de Québec, il en a également tirer sa propre version de l'histoire de la Nouvelle-France. Prenant la balle au bon, Christian Quesnel et Ariane Gélinas s'accaparent cette matière première, les écrits de Lovecraft, pour revisiter et se réapproprier une passionnante histoire parallèle du Québec. À la limite du songe, du fantastique et du rêve, les peuples déchus ou oubliés qui grouillaient sur les terres d'Elkana retrouvent une existence dans l'âme craintive des hommes grâce à ce splendide projet. Les territoires de ceux qui savent s'ouvrent à celles et ceux qui sauront voir et écouter. À la faveur de la tombée de la nuit, je vous invite à rencontrer Christian Quesnel et Ariane Gélinas, qui sont mes invités ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Ariane et bonsoir Christian.
Bonsoir.
Ariane Gélinas, vous êtes co-directrice générale et littéraire du Sabor. Vous avez publié entre autres L'Enfant sans visage aux éditions XYZ. La trilogie Les villages assoupis chez Marchand de Feuilles a reçu le prix des arts Excellence, Jacques Brossard et Aurora Boréale. Votre roman Les cendres de Sedna a reçu le prix des arts Excellence et Aurora Boréale. Quelques battements d'ailes avant la nuit, ainsi que votre recueil Criminel, co-écrit avec Maureen Martineau journaux sont parus chez À Lire. Vous êtes chroniqueuse et critique. Vous détenez un doctorat en lettres de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où vous êtes chargée de cours. Auteur de bandes dessinées inspirées de l'histoire, Christian Quesnel, vous avez publié Félix Leclerc, L'Alouette en liberté, lauréat du prix du Calque, œuvre de l'année en Outaouais 2019. Vous avez Détruit la beauté du monde, lauréat du Grand Prix de la ville de Québec, BDIS Causa 2021, finaliste au prix des libraires du Québec 2021, et Mégantique, Un train dans la nuit, lauréat du prix Écofauve Raja du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, Grand Prix de la ville de Québec, BDIS Causa 2022. Vous avez été le premier artiste en résidence au studio du Calque à Londres et vous détenez une maîtrise en muséologie et pratique des arts, la bande dessinée de l'Université du Québec en Outaouais, où vous êtes actuellement doctorant. Alors, l'une comme l'autre est certainement lectrice et lecteur de Lovecraft. Comment est né ce projet de vous confronter à ce géant de la littérature fantastique ? Comment avez-vous découvert ces livres, Christian ?
Moi, j'ai lu Lovecraft, jeune adolescent. J'ai lu quelques nouvelles de lui, puis j'avais beaucoup aimé, mais sans nécessairement pousser plus loin ces lectures-là. C'est Thomas-Louis Côté, qui est le directeur de Québec BD, le Festival de bande dessinée de Québec. On était une délégation d'auteurs de bande dessinée dans un festival en France, puis Thomas-Louis m'accoste, puis il me dit, écoute, tu devrais peut-être travailler un jour sur Lovecraft, tu sais qu'il est déjà venu à Québec, tout ça, puis je savais pas qu'il était déjà venu à Québec, mais là, ça m'a titillé un peu, je l'avoue. Puis j'ai fait un peu de recherche, puis je me suis dit, OK, il y a moyen, le texte est un peu triste, un peu trop sobre à mon goût, parce que bizarrement, Lovecraft a écrit un texte sur Québec qui n'est pas Lovecraftien, donc c'est plus une description. Puis, mais moi, je me suis dit, bon, je vais intégrer le restant de son œuvre fantastique à l'intérieur du récit de la Nouvelle-France puis de la ville de Québec. Donc, j'ai travaillé à partir de fragments de textes de Lovecraft. Puis, mais encore là, quand les planches étaient terminées, le texte demeurait trop sobre, trop didactique. Mm-hmm. C'est là qu'un ami commun m'a mis en lien avec Ariane Gélina.
Vous, Ariane, et vous qui êtes une des grandes voix, si je peux le dire comme ça, du fantastique, de la science-fiction, voire de l'horreur ici au Québec, avez-vous fréquenté la bibliothèque John Hay à Providence ou avez-vous lu la biographie de S.T. Joshi qui justement traite de Lovecraft?
Ça fait longtemps que je fréquente Lovecraft. Je l'ai lu à 4 reprises intégralement, en cassé au fil du temps. Puis, je me rappelle, je l'ai découvert à l'adolescence comme Christian. Mais à ce moment-là, j'avais lu toutes ces nouvelles qui étaient disponibles en français. Puis, Lovecraft peut provoquer cet effet-là chez certaines personnes, lecteurs qui sont sensibles, parce qu'il vient d'immerger dans un univers qui est unique, singulier, puis quelque chose de très enrichissant en même temps. Puis, par la suite, je m'ennuyais de Lovecraft, si je peux dire comme ça, et j'ai voulu le relire au début de la vingtaine. Ensuite, lorsque j'ai enseigné à l'UQTR le cours sur la littérature fantastique, j'ai bien sûr mis Lovecraft au sommaire pour le bonheur de mes étudiants et j'ai relu l'intégralité de ses écrits. Et par la suite, lorsqu'on m'a approché pour la Cité oblique, c'était l'occasion, et puis je me suis fait plaisir en ce faisant, de relire aussi une nouvelle fois les différentes nouvelles de Lovecraft. Puis ses essais également pour m'en inspirer avec le mandat spécifique qui m'était confié, puis qu'il y avait quelque chose de singulier, comme l'a déjà mentionné Christian.
Mmh. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, Christian, on peut lire le récit et la version de l'histoire de la Nouvelle-France de Lovecraft, notamment chez Robert Laffont, je crois que c'est le tome 3 des œuvres complètes où on trouve ce récit-là. Finalement, comme vous le disiez, ces récits sont assez banals, bon, sanglants lorsqu'ils relatent des faits de guerre, mais sans plus, on n'a aucune trace de l'immense et monstrueux Cthulhu, ce grand ancien qui vous a sans doute inspiré Elkanah d'ailleurs. Qui est-il ou qui est-elle d'ailleurs, cet Elkanah, cet Elkanah Cthulhu, si je peux dire?
Elkanah, c'est un peu Hydra, qui est la compagne de Dagon, qui est un des grands anciens. Il existe beaucoup de grands anciens dans la mythologie de Lovecraft. Cthulhu est le plus connu. On peut aussi penser à Nyarlathotep, à Yog-Sothoth. Et puis, lorsqu'il est venu le temps de réfléchir à quels grands anciens on souhaitait mettre de l'avant dans cette cette histoire de la Nouvelle-France revisitée. Je me suis interrogée à savoir est-ce qu'on prend Hydra telle comme ça. Et puis, par la suite, l'idée de nommer cette grande ancienne-là, Elkanah, ça fait partie d'un projet. Il y a des références qui sont, disons, de première ligne par rapport à Lovecraft. Si on le lit une fois, on va reconnaître. Il y en a aussi qui sont très subtiles et puis qui sont un peu enfouies et mystérieuses. Et le prénom Elkanah fait partie de ces références-là que les très fiers, les lecteurs qui ont parcouru l'ensemble de leur peuvent repérer. Ça vient d'une nouvelle qui dont le titre est en français « La maison maudite ». Et puis, au détour de deux phrases, le prénom Elkanah va être mentionné parmi les victimes de la maison maudite en question. Et puis, ce nom-là m'avait frappé. Et puis, c'est un prénom qui est pensé comme masculin dans la nouvelle. Et ça veut dire, selon les différentes façons d'interpréter, mais ça peut vouloir dire « celui qui est possédé ». Alors, mm-hmm. Je trouvais ça très, très intéressant pour un nom de déité sous-marine et une façon de l'intégrer à notre France revisitée. Oblique en utilisant pas directement un prénom dans la mythologie, mais je pense que ça donne l'impression d'en faire partie et de s'intégrer naturellement parmi les Cthulhu et Yog-Sothoth et Avatoth.
J'aimerais qu'on s'arrête sur une expression que vous avez utilisée, les grands anciens. C'est fondamental en fait dans la BD. Qui sont-ils, qui sont-elles ces grands anciens? À quoi correspondent-ils ou tels?
Oui, ils sont très importants dans la mythologie de Lovecraft qui a élaboré en réalité une sorte de cosmogonie autour, au fil de ses nouvelles, puis autour de différentes créatures. Et puis eux, ils viendraient d'ailleurs, donc de planètes lointaines, donc par-delà Pluton ou dans les environs d'eux. Et il y a ça qui est récurrent dans plusieurs nouvelles et qui se retrouve dans la cité oblique. Les grands anciens patientent dans une cité au fond des eaux qui pourrait avoir plusieurs remparts, donc ils pourraient être aussi la cité aux mille remparts, mais enfouis, et ils attendent leur avènement. De temps à autre, il y a des gens qui ont des rêves de grands anciens et qui vont voir des parcelles, parce que eux, ça fait des millénaires, selon leur foi, qui seraient endormis en guettant leur sommeil. Puis c'est dans Rilée la Morte, qui est Toulouse, qu'on pensait tantôt, c'est là qui sommeille, qui est enfoui et puis qui attend son avènement. C'est la fameuse phrase imprononçable là, qui se retrouve d'ailleurs à la dernière page.
Bah oui.
Je peux pas le dire, là. Je sais pas si quelqu'un veut s'essayer. Bon, ça veut dire dans Rilée la Morte, de Cthulhu, patiente en rêvant. Il y a différentes traductions. Okay. Et c'est un grand ancien. Et puis, il n'est pas tout seul, selon Lovecraft, bien évidemment. Alors, je ne veux pas qu'on pense que depuis tant j'attends l'avènement des grands anciens. Mais bon, selon les nouvelles de Lovecraft, ils sont là, au fond des eaux, et ils patientent. Et on s'en est inspiré, bien entendu, pour Elkanah et la cité oblique.
Alors, Christian, pourquoi choisir de raconter l'histoire de la Nouvelle-France sous la forme d'un monde parallèle, on va dire mythique, quasiment menaçant, monstrueux, celui des courants obliques de l'histoire officielle, comme vous l'écrivez, des territoires cauchemardesques de la ville de Québec. Québec, je précise, avec un C et un K à la fin. Pourquoi avoir choisi cette façon de raconter?
Ben, pour moi, c'était une façon, justement, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Je voulais vraiment dépoussiérer, si on veut, l'histoire du Québec, puis emmener un nouveau regard sur qui on est. Parce que souvent, on nous présente des livres d'histoire avec, des trucs qui sont factuels, avec une pointe classique. Tandis que les Français et les Américains, depuis des décennies, ils revisitent leur histoire avec différents récits. Ils n'hésitent pas à mettre des touches fantastiques. Donc, je me suis dit, voici l'occasion idéale, vu que Lovecraft est venu à Québec, puis il a écrit des récits sur Québec. Pourquoi pas, justement, jouer avec cette histoire-là, puis créer une sorte de miroir qui distorsionne un peu notre passé. Qui dit distorsionner notre passé, bien, ça distorsionne aussi la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes. Puis, pendant toute l'élaboration du projet, la gestation du projet, j'avais une idée de moi-même adolescent. Si j'avais découvert l'histoire du Québec de cette façon-là, je pense que j'aurais voulu aller voir qui était Frontenac, qui était Champlain, qui étaient ces personnages-là un peu fous dans la cité oblique, qui étaient aussi un peu fous dans l'histoire de la Nouvelle-France.
Alors, pour arpenter l'envers du miroir, c'est tout un défi, un défi de l'image, mais un défi également dans le style d'écriture. Comment avez-vous procédé, Ariane? Parce qu'il y a de nombreuses références, vous en parliez tout à l'heure, des jeux de mots, des références cachées, vous jouez avec les lettres, j'en ai noté quelques-unes. Québec, évidemment, s'écrit CK, Cartier s'écrit avec un Q, Cartier de Saint-Malheur, La Nouvelle Frélay, c'est assez génial. Champlain, Saint-Laurent, L-O-R-E-N-T, etc., etc. Nouveau monde, nouveau vocabulaire.
Oui, alors du point de vue de l'écriture, là, c'était un défi à plusieurs facettes et c'est un des défis les plus complexes d'écriture que j'ai eu à réaliser, je dirais, parce que je voulais rendre à la fois hommage à Lovecraft dans une perspective thématique, aussi avec ses univers, tout à l'heure on parlait des grands anciens, et je voulais aussi lui rendre un hommage stylistique que j'espère on sent bien entre les pages de la Cité Oblique. Cela dit, je souhaitais également tirer parti de mon expérience d'écriture personnelle, dans le sens où j'aime beaucoup les atmosphères, les descriptions. Chez Lovecraft, on est souvent, il va plutôt éluder les descriptions. On a l'impression qu'on a vu quelque chose d'horrible, mais en réalité, c'est notre imagination qui va embarquer. Donc, il s'agissait de doser aussi dans l'écriture par rapport à ça. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, étant donné que les planches de Christian existait préalablement, il en a réalisé quelques-unes aussi par la suite lorsqu'on a travaillé le projet avec Antoine Tanguy. D'ailleurs, je mentionne au passage Antoine Tanguy d'Alto, là, qui a fait partie de près de notre travail d'équipe lors de l'élaboration, lorsqu'on était rendu à mettre tout ça en commun, texte et images. Je me souviens avoir travaillé avec des petits cartons de papier que je déplaçais aussi. Et puis, ça m'a demandé une sorte de travail très, très singulier, à la fois d'oublier l'histoire de la Nouvelle-France, de la connaître, d'oublier Lovecraft, de connaître très bien. Il y a aussi, j'ai relu en relisant son intégral, j'ai pris plusieurs notes pour voir comment ça pouvait s'insérer, mais il fallait pas que ce soit trop martelé. Il fallait que je résiste à certaines tentations, comme de mettre le mot indicible partout. Bon, c'est certains mots que Lovecraft va apprécier partout. Je ne voulais pas que ce soit entrer dans une forme de parodie, mais plutôt qu'on sente l'affection que j'ai pour ses écrits, qu'on sente l'hommage et que ce soit fluide aussi. Alors, il y avait vraiment un défi d'écriture là, qui était profond là-dedans. Alors je pourrais faire une blague avec des abysses des grands anciens. T'es.
Alors comme souvent dans vos albums, Christian, il y a une teinte particulière, hein, le contraste domine. Ici, vous choisissez le gris, des rouges sang, des pourpres, des bleus indigo, des bruns terreux. Pour finir, on se noie une espèce de ciel bleu où le blanc et le bleu dominent. C'est presque éblouissant. Le bleu, c'est un peu votre signature. Diriez-vous que cet album est le projet le plus ambitieux à date?
Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, Eric. Je pense que le fait d'avoir travaillé aussi longtemps, 3 ans et demi, sur un projet comme ça, puis il y a 3 autres projets qui l'ont traversé en même temps, parce que j'ai travaillé tantôt, tu mentionnais, vous avez détruit la beauté du monde, par la suite Mégantic. Ben, ces deux albums-là ont été faits en même temps que la Cité Oblique. Puis j'essayais, pour moi, la Cité Oblique représentait vraiment une soupape, une bouffée d'oxygène, en fait, parce que les autres sujets étaient tellement prenants émotionnellement, tellement impliquants, que Lovecraft apparaissait léger, ça fait drôle à dire, mais Lovecraft apparaissait, c'était la légèreté pour moi dans la création à ce moment-là, puis je pouvais vraiment me libérer, si tu veux, de toute cette implication-là que j'avais. C'est sûr qu'à la fin, on voulait y aller avec un éblouissement, comme si on avait regardé ce récit-là de bande dessinée à noirceur, à l'arme de poche, en dessous de nos couvertes la nuit. Puis là, quand on finit, il y a le soleil qui se lève, qui est éblouissant. C'est un petit peu l'effet, en tout cas, que je trouve que ça donne au final, avec cette page-là, où Elkanah, on mentionne que Bon, je ne dirai pas. OK?
Est-ce que, justement, Christian, est-ce que tu pourrais nous parler de cette couverture qui est sublime quand on la déplie? En plus, c'est carrément, c'est une œuvre d'art, c'est magnifique. Est-ce que tu pourrais nous raconter le choix de cette couverture? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce qui était important pour toi dans, je dirais, dans ce résumé du livre et dans le portrait de Lovecraft qu'on trouve en couverture, mais également à l'intérieur, puisque Lovecraft prend la parole dans l'album?
Ben oui, en fait, tu vois, le texte original de Lovecraft sur Québec, il y avait un texte sur l'histoire de la Nouvelle-France, puis il y avait un texte sur ses déambulations. Ce qui reste des déambulations de Lovecraft, c'est qu'on le voit apparaître de temps en temps, qu'il nous raconte l'histoire, puis il est dans Québec quand il raconte l'histoire. Pour revenir à la question de la couverture, c'est en fait, la couverture reprend une image de Lovecraft que j'ai à l'intérieur, que j'ai, c'est un peu, si on veut, l'esquisse de, ce, de cette couverture-là, c'est pas à l'intérieur, où on voit des tentacules sortir de la tête de Lovecraft qui est au premier plan. J'ai vraiment travaillé, c'est vrai, 2 mois sur cette couverture-là, sans blague. J'ai même failli la déchirer à un moment donné. C'est terrible. Avec Antoine Tanguy, on travaillait, puis on arrivait, on avançait, on reculait. Ça a été beaucoup d'aller-retour. J'ai eu l'idée au départ de jouer avec des poches de thé sur un papier aquarelle. C'est ce qu'on peut voir, des poches de thé un peu partout, ce qui donne l'impression de la peau de Lovecraft. Mais aussi, il fallait retrouver Québec. Mais pas Québec de façon carte postale, avec le château Frontenac, tout beau, tout ça. J'ai vraiment voulu donner une idée un peu de l'intérieur du livre, mais d'un Québec oblique, un Québec parallèle, uchronique, puis avec le fleuve qui est complètement rouge, quasiment fuchsia, en fait. Puis on retrouve en même temps Cthulhu en arrière-plan. Mais Cthulhu n'est pas super important dans le récit. Il n'occupe pas une grande place. Mais on voulait retrouver le personnage de Lovecraft, la ville de Québec et le côté, bon, il y a aussi des compagnies franges de la marine et des soldats français en silhouette. Donc, il y avait beaucoup de choses à synthétiser à l'intérieur de la pochette. Mais quand on ouvre complètement la couverture, qui a des rabats, là, on voit Elkanah sur les 2 rabats. Mm-hmm. Puis on voit Frontenac aussi en 4e de couverture. Frontenac qui, en passant un masque de hockey. Donc, il rappelle des films d'horreur des années 70-80. Donc, c'est ça. Puis, il y a un navire en même temps. Donc, il fallait vraiment que ça soit... Encore une fois, c'est comme tout l'album, c'est un équilibre entre la Nouvelle-France, l'histoire de la Nouvelle-France et le monde de Lovecraft. Puis, cet équilibre-là était difficile à atteindre juste pour le synthétiser comme ça sur une couverture. Mm-hmm.
Arrêtez-moi si je me trompe, mais l'idée du livre est quand même une histoire de dépossession du territoire. Vous parlez de blessures infligées. La croix est portée en terre comme une blessure irrémédiable. C'est une histoire d'intrusion, mais également de pacte avec la créature, voire la possibilité d'un enchantement, d'une sorte de malédiction contre l'envahisseur anglais. Une malédiction qui suinterait des murs de Québec, voire des coins sombres de la capitale à l'heure de la lune gibbeuse. C'est une expression qui est souvent empruntée par Lovecraft. Les félins du Québec seraient les messagers d'Elkanah, ce qui doit plaire énormément à Ariane, j'imagine. Je me suis laissé dire que vous aimiez les chats. Et Lovecraft les affectionne particulièrement, hein, puisqu'il y a l'histoire justement de cette nouvelle, les chats d'Ultar. Alors je me suis dit, cette ville qui traverse, qui est traversée par le réel et l'irréel, finalement vous réécrivez l'histoire comme s'il n'y avait plus de vaincus suite à la bataille d'Abraham. C'est une version de l'histoire, comment dire, où on en tire une certaine fierté.
Oui, on se retrouve vraiment en histoire de translation. Puis quand est venu le temps de choisir le titre avec la cité oblique, il témoignait de ça, donc de cette réalité historique alternative. Et aussi, ça rendait hommage avec un des sujets de prédilection de Lovecraft dans ses écrits, c'est-à-dire les livres et les récits qui n'existent pas, comme le fameux Necronomicon. Mm-hmm. Ça nous permettait aussi de... Il y a plusieurs niveaux de lecture, donc de proposer une réécriture historique qui va au-delà d'eux, puis qui propose tout plein d'interprétations possibles.
En revenant sur vos anciens albums et en lisant évidemment celui-là, Christian, je me suis dit, on trouve beaucoup de références graphiques et textuelles au sacré, voire à une déité dans vos albums. L'impie, le sacré, quelle place cela joue dans votre travail?
En fait, ça joue le même. Comment je peux dire, ça occupe la même place que dans ma vie en général, parce que moi, j'ai une éducation catholique classique là, de mes parents. Ils sont très religieux. Puis j'ai eu cette éducation-là qui m'a été transmise. Puis, à l'époque, je me disais, merde, c'est pas intéressant. Mais aujourd'hui, je suis très content parce que je me sers beaucoup de j'utilise beaucoup la symbolique, beaucoup de choses qui sont d'origine, si on veut, mystique, religieuse. J'ai fait un album, mon projet de maîtrise, là, que vous mentionnez tantôt. Le projet de bande dessinée, c'est sur le linceul de Turin. Donc, j'ai beaucoup exploré ça. Puis de t'amener, comment je faisais ces symboles-là, à ma façon, esthétiquement, les pousser un peu plus loin, puis les rendre encore plus lugubres. Des fois, ça peut rendre le message vraiment vraiment clair, surtout avec l'actualité, en fait. Je veux dire, les jésuites, les missionnaires, en fait, dans la cité oblique, ils passent vraiment pour des fous furieux, des gens qui sont prêts à tout. Puis, en fait, ils étaient prêts à tout. C'est très, je trouve que c'est très Lovecraftien comme personnage. C'était facile pour moi de les mettre aussi à côté de Corneille, parce qu'avec leurs habits noirs, tout ça, les prêtres, ça a tellement l'air de ça, des Corneilles. Donc, visuellement, moi, c'est un plaisir de jouer avec ces symboles religieux-là. Puis, on dirait que c'est quelque chose, tu as absolument raison, ça revient dans toutes mes œuvres, même dans mes gantiques. Et dans mes gantiques, en fait, l'explosion a fait, le feu a arrêté tout juste devant la statue du Christ, devant l'église. Donc, je ne pouvais pas ne pas la mettre.
Et puis, pour les futurs lecteurs et lectrices, effectivement, vous en parliez tous les deux, plus ou moins. Il y a des choses qui sont dissimulées un peu partout. Il faut regarder, relire, aller voir certains détails. Par exemple, prenons encore une référence à Lovecraft. Il est souvent question de bas-reliefs dans ses nouvelles ou dans ses romans, de frontons avec des hiéroglyphes mystérieuses à déchiffrer. Et dans le livre, on trouve le bas-relief du Chien d'or qui se situe rue du Fort dans la haute ville de Québec, sur un fronton sur lequel on peut lire l'inscription « Je suis un chien qui ronge l'eau, sans le rongeant je prends mon repos, un temps viendra qui n'est pas venu, que je morderai, qui m'aura mordu. » Alors, je n'étais pas familier avec ce bas-relief qu'on peut trouver à Québec. Ça a dû vous amuser, en fait, de coller ça dans l'album.
J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, surtout que Le Chien d'or, en fait, c'est un roman qui date des années du 19e siècle. C'est William Kirby qui a écrit ce roman-là. Puis Lovecraft s'est beaucoup inspiré des écrits de Kirby pour écrire son histoire de la Nouvelle-France, justement. Pour moi, c'est un clin d'œil au texte original. Puis en même temps, c'est tellement, encore une fois, c'est tellement Lovecraftien comme histoire. Puis même qu'on pourrait adapter plein de récits comme ça à la Lovecraft. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, à Québec, où le Chien d'or est situé, c'est juste derrière une statue de Montmorency Laval qui m'a servi d'inspiration aussi, cette statue-là, pour faire le Montmorency Laval qu'on voit dans le récit, dans la bande dessinée.
Mais ce que j'ai trouvé ironique, je trouve que c'est que Lovecraft était un fervent admirateur de l'Angleterre. C'était un wasp, hein, l'admirateur de la reine et de sa couronne, mais même s'il était américain. Il n'a pas eu que des bons mots dans sa vie pour les Canadiens français, d'ailleurs. J'ai découvert ça en lisant. Et je trouve ça assez ironique, finalement, que c'est un produit de son époque. Hein. C'est une belle revanche, finalement. En tout cas, peut-être pas sur lui, parce que c'était comme un auteur tellement immense qu'on peut lui en passer certaines, j'imagine. Mais c'est une belle revanche, en tout cas, sur l'histoire, sur les batailles d'Abraham, justement, d'avoir pris ce biais Lovecraftien, Ariane.
Oui, puis on a voulu aussi, notamment dans le texte, si, en ce qui me concerne, jouer sur cette distorsion-là, le temporel, donc en présentant des éléments, comme on a mentionné, historiques, qui étaient véridiques pour certains, d'autres, et puis qui l'étaient moins. J'en profite aussi pour mentionner, et c'est précisé à la fin de l'album, que par exemple, bien que Lovecraft fut un écrivain minutieux, son histoire de Québec ne se distingue pas par sa véracité. Nous avons voulu respecter ce défaut. Donc, ça fait un pont avec aussi ce que tu viens de mentionner. Donc, ça aussi, c'était à considérer donc dans la démarche et dans l'écriture. Donc, c'est important à mentionner.
Alors, je me suis dit aussi que ça allait vous faire plaisir, Ariane, de considérer peut-être ce livre en quelque sorte comme votre Necronomicron, ce fameux livre maudit et interdit interdit, écrit au 8e siècle par un poète yéménite dément, selon Lovecraft. C'est une dernière question que je vous pose à l'une et à l'autre. Est-ce qu'on peut considérer finalement La Cité Oblique comme le livre maudit de l'histoire québécoise? Ça vous plairait, ça?
En tant que fervente de fantastique, absolument. mais je peux juste répondre de cette manière-là. Puis on sait que Necronomicon, c'est après l'avoir écrit que l'auteur serait prétendument devenu fou. Alors, je sais qu'est-ce qui m'attend. J'ai l'impression, si nous avons signé un livre maudit de la littérature québécoise, eh bien, il me reste peu de temps pour des phrases cohérentes comme celles que je suis en train de dire à l'instant même. Alors oui, ça me plairait comme qualificatif.
Et Christian, de savoir que des lectrices ou des lecteurs enterrent la Cité Oblique dans leur arrière-cour pour en faire un objet de culte, ça vous parlerait?
Moi, ce serait génial. J'aimerais même qu'ils brûlent en Ontario. C'est super. C'est une motif il y a quelques années avec un de mes albums. J'adorerais ça.
il faut préciser.
Oui, et puis en autant qu'ils nous invitent au sabbat, par exemple. Je voudrais qu'ils nous invitent à cette espèce de sabbat-là avec une cathédrale en fleurs, quelque chose.
Alors, j'aimerais préciser que cet album existe également dans une édition de collection limitée à 300 exemplaires, un coffret à 3 volets en cuir synthétique estampé, signé par Christian Quesnel et Ariane Gélina. Il existe même une bière qui a été brassée à Québec en l'honneur du livre, à la Barberie. Il y a également un jeu de cartes à l'effigie des personnages qui existe également. Et n'oubliez pas qu'il y a une exposition H.P. Lovecraft, La Nouvelle-France et Québec, qui a lieu du 1er septembre au 8 décembre à la Galerie Montcalm à Gatineau, qui reprend effectivement un parcours de planches autour de la BD La Cité Oblique. Bref, voici une splendide relecture de l'histoire de la Nouvelle-France à la manière d'un auteur à découvrir ou à redécouvrir, Howard Phillips Lovecraft, un art maîtrisé de main d'orfèvre, un album incontournable de la rentrée, La Cité Oblique de Christian Quesnel et Ariane Gélina, paru en 2022 aux éditions Alto. Merci Ariane et Christian pour votre visite à Mission Encre Noire. Is est une île. On ne dit pas les îles d'Is ou l'archipel d'Is, car il n'y a que sur l'île principale, ce gros morceau de terre égaré entre Saint-Jean-de-Terre-Neuve et Ouessant, où l'on peut vivre à l'année. Les rochers qui en gardent les parages et les dunes qui en barrent l'accès par le sud partagent la particularité d'être submergés lors des grandes marées d'équinoxe. Ces écueils n'ont jamais été de vrais îlots et on leur a donné des noms comme on donne des noms humains aux animaux de compagnie. Is est une île. Is est unique. Aux origines, elle ne figurait sur aucun portulan. Elle n'était connue que des chasseurs de baleines prêts à poursuivre le cétacé jusque dans ses lointaines fugues. Ils étaient les marins les plus hardis de leur époque. Ils n'avaient pas intérêt à ce que leurs concurrents pussent situer l'île sur une carte, mais tout avantage à ce que les puissants crussent sa route jalonnée de sirènes venimeuses et de chutes abyssales. L'île avait eu plusieurs noms, un dans chaque langue et dans chaque patois. C'est son nom breton qui, marée après marée et décennie après décennie, finit par être adopté de tous. Peut-être parce qu'il était le plus court ou parce qu'il frappait l'imaginaire, ressuscitant le souvenir d'une cité mythique et sublime engloutie sous les eaux pour avoir été trop païenne. Ceci est un extrait des Marins ne savent pas nager par Dominique Scali, paru en 2022 aux éditions La Peuplade. Oyez, oyez, chers concitoyens, savez-vous nager? Car voilà Bien que cette fonction ne soit pas essentielle pour vous immerger dans ces pages, sachez qu'il vous faudra rendre les armes et savoir échouer avec style sur les rives escarpées de l'île 10, un bout de terre perdu au milieu de l'Atlantique au XVIIIe siècle. Le citoyen Joibert, charpentier de la marine issoise, a déposé une requête pour une reconnaissance posthume en l'honneur de Danaé Bérubé Portagen, dite Poussin, pour son rôle joué dans le coup d'État de la Grande Rotation. Mais n'allons pas trop vite. Oui, il faut savoir nager, avoir du courage pour être issoise ou issois. Une citoyenne, un citoyen de ce nom, se doit de faire ses preuves avant toute chose pour accéder au Graal, vivre dans la cité fortifiée, à l'abri des grandes marées d'équinoxe. Et Danaé n'en manque point d'abnégation et d'audace. Son destin, ici compté, s'étale sur une lecture passionnante, foisonnante, bluffante sur plus de 700 pages, d'une langue vernaculaire colorée et d'un style qui mêle le tragique, le dramatique, le burlesque, pour nous enivrer d'un roman d'aventure maritime époustouflant. Destination, le littoral déchiqueté de falaises nues que seuls les oiseaux et les navires de faible tonnage peuvent approcher. L'île 10, ce soir, à Mission Encre Noire, en compagnie de la citoyenne Dominique Scali. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Vous êtes née d'un père italien et d'une mère québécoise. Vous êtes titulaire d'un doctorat en psychologie de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes journaliste au Journal de Montréal depuis 2014. Vous avez été finaliste du prix du gouverneur général pour la fiction de langue française au prix du gouverneur général de 2015 pour votre premier roman À la recherche de New Babylone, également paru aux éditions La Peuplade. Commençons par le commencement. Quel roman, 700 pages d'aventure qui respire les embruns. Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire ce livre?
Ça dépend à partir de quand on commence à compter. Donc, je dis entre 5 et 7 ans. 5 ans étant le chiffre conservateur à partir du moment où j'ai vraiment commencé à faire de la recherche très active pour ce roman-là. Mais ça mijotait déjà là, de quelques années avant dans ma tête.
Comme je le dis en introduction, vous créez un mythe, vous créez un nouveau monde, vous créez l'île 10. Alors j'ai pensé, ça m'a fait penser à un mythe breton existant, celui d'une ville légendaire de Bretagne qui aurait été engloutie par l'océan. C'est un thème probablement issu des mythes celtes. Il s'agit de la cité qui porte un peu le même nom d'ailleurs, mais c'est surtout un monde parallèle au nôtre où seuls les héros, les dieux, les rois, les êtres féeriques, en tout cas les hommes, y accèdent pour avoir montrer courage et loyauté. Les femmes, elles, ne pouvaient pas y être invitées, mais elles s'occupent du passage entre les deux mondes. Et chez les Bretons, c'est la fée Morgane et ses fées à elle qui s'en chargent. Est-ce que l'île 10, c'est une sorte de monde parallèle, perdu au milieu de l'océan? Est-elle le reflet de notre monde?
Entre autres, oui. Effectivement. Je pense qu'il y avait un peu de je me suis effectivement un peu inspirée du mythe breton, entre autres choses, là, pour notamment le fait que c'est dans la légende que j'avais lue, c'était une cité qui devient inondée et qui devient submergée complètement. Donc il y avait cet aspect-là. Et cet aspect-là aussi d'espèce de cité mythique et remplie de richesses et qui semblait-il était un peu trop païenne pour les idées chrétiennes et tout ça. Mais pour revenir à la question, est-ce que c'est un monde parallèle? Oui, moi, je l'utilise un peu comme une métaphore de notre époque. Donc, en inventant une île comme ça au milieu de l'Atlantique, ça me permettait un peu de projeter toutes sortes de thèmes que je trouve actuels et qui, en même temps, me fascinent quand je plonge dans des époques passées.
Qu'est-ce qui vous fascine, justement? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de créer un tel livre, de créer un tel monde? Parce que vous nous gratifiez d'une carte soigneusement détaillée, d'une frise du temps. J'aime beaucoup, d'ailleurs, votre travail sur la langue, les mots dans le texte. On y reviendra un petit peu plus loin. Mais prenons juste cette carte. Les lieux dits qui nomment la côte 10, les Échouements, l'archipel des Sablons, baie de Partance, Cap Nordant... D'où vous sont-ils inspirés? J'y devine une inspiration un peu québécoise, d'ailleurs.
Oui, mais c'est ça, sur le plan de la langue, en fait, ça a été quand même un long processus. Ça a commencé par un dilemme, un peu. T'sais, j'avais cette idée d'une île où les marées montent très haut. J'avais un peu le cœur de tout ça, mais la question que je me posais, c'est comment est-ce que je fais parler ces personnages-là? Je peux pas les faire parler en québécois, parce que c'est pas des Québécois. Ça se passe pas au Québec. Je peux pas les faire parler en français de France, parce qu'il y avait personne qui parlait comme ça à cette époque-là. Et je peux pas les faire parler en vieux français parce que, bon, ce serait un peu ridicule et je suis pas capable de faire ça. Et donc, ça a commencé avec cette espèce de dilemme-là. Et à force de lire, c'est comme si j'ai découvert une autre langue. Je me suis dit, ben, dans le fond, pourquoi pas opter pour une langue inventée, un peu. Donc, qui se colle beaucoup sur le joual, sur le québécois, parce qu'on se le cachera pas. On peut supposer que au 18e siècle, les gens parlaient un français qui ressemble beaucoup plus au nôtre qu'au français parisien. J'ai essayé d'aller chercher une couleur avec des expressions que je ramenais, des sonorités que je ramenais souvent pour créer quelque chose de cohérent un peu. Donc pour moi, c'était pas l'important de me coller sur un langage historique, mais plutôt vraiment de que ce soit cohérent pour qu'on comprenne que c'est rien, c'est de l'histoire en fait. Donc, il y a vraiment. Puis je pense que le déclic s'est un peu fait quand je suis tombée sur l'œuvre de Pierre Perrault, là, sur la trilogie de l'île aux coudres, où on dirait que tout le on associe souvent le joual ou le parler québécois à quelque chose d'un peu vulgaire, qui n'est pas très littéraire. Mais là, quand j'entendais parler les gens de l'île aux coudres dans ces documentaires-là, je trouvais que ça sonnait pas du tout vulgaire. Au contraire, je trouvais que ça sonnait intemporel. Ça sonnait comme un langage immémorial. Il y avait vraiment une fierté de parler cette langue-là. On voit que pour eux, ils se forçaient là, de bien parler.
Alors, rentrons un petit peu dans le roman. J'aimerais savoir qui était ou qui est Danaë Bérubé-Portagen, dite Poussin, cette sirène sans queue de poisson et qui apprend assez vite à nager dans ce livre. Et d'ailleurs, pourquoi qui est-elle? Parce que ce livre raconte un peu son histoire.
Oui, ben en fait, un des points de départ pour moi, c'était la petite sirène de Henderson. Donc, je pense que j'avais envie un peu de créer un monde où je pouvais un peu projeter les mêmes dynamiques que dans le conte d'Anderson. J'avais envie de créer ma petite sirène en moi, d'une certaine façon. Donc, Danaë, c'est un peu ça. C'est un peu ma version de la petite sirène d'Anderson. Donc, j'avais envie de créer justement une femme qui vit dans l'eau de façon un peu métaphorique parce qu'elle sait nager, parce qu'elle vit sur le rivage. Donc, elle doit subir les grandes marées et qui rêve d'un ailleurs, qui rêve de franchir le mur, qui rêve d'être du côté des privilégiés, du côté des humains d'une certaine façon, parce que souvent c'est les privilégiés qu'on considère comme humains et tout ça. Donc oui, c'est ça, Danaë, c'était un peu c'est l'héroïne que j'ai mis en scène un peu pour personnifier cette femme, cette fille, cette femme qui est très déterminée, qui accepte de jouer avec les règles du jeu, mais qui quand même se frappe à des échecs à répétition.
Alors, la cité qui entoure l'île, on l'a bien compris, a érigé un système de privilèges, le fameux régime des saintes rotations. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que ces saintes rotations occupent une bonne place dans votre frise du temps.
Oui, les saintes rotations, c'est un peu le système que j'ai imaginé où il y a des places limitées dans la cité pour choisir qui a le droit d'y habiter. Il y a un système où bon, les citoyens ont la citoyenneté à vie, donc ils peuvent aller, venir et habiter dans la cité autant qu'ils veulent, mais pas leurs enfants nécessairement. Donc, pour être admis dans la cité, quand une place se libère, il faut passer par un processus de sélection. Et c'est les plus valeureux, les plus courageux, ceux qui ont fait des exploits, soit militaires ou qui ont rapporté beaucoup de richesses à la cité, ou bref, des gens qui se démarquent. C'est un système où on fait un peu croire à tout le monde que tout le monde pourrait et valeureux et audacieux, mais où dans les faits, finalement, ce sont souvent les enfants des citoyens qui se retrouvent de génération en génération dans la cité.
Alors, qu'est-ce que cherche Danaë? Cherche-t-elle à échapper à un monde plate, masculin, ou cherche-t-elle aussi, comme la petite sirène, à devenir quelque part immortelle?
Bonne question. Je pense que c'est un mélange elle cherche à fuir un peu la misère, c'est-à-dire le fait de vivre constamment sous la menace des eaux. Donc, il y a quelque chose de très concret dans l'idée de fuir sa condition, et aussi d'atteindre le rêve, d'atteindre une sorte d'idéal, d'atteindre un monde où, supposément, ces valeurs-là seraient mises de l'avant, où les gens seraient supposément supérieurs en tout à ceux qui vivent sur le rivage. Donc, c'est un mélange à la fois un mélange des deux, dans le fond, là, de concret et d'idéal, si on veut, là.
Alors des hommes, elle va en croiser hein, sur son chemin. Elle va croiser un duelliste, un prince voleur, un prince joueur, un prince nageur et un bâtisseur. Enoch Martel, Renaud Bertis, Artimon Félan, Jacques Duval et Augustin Joybert. Est-ce que chacune de ces rencontres représente une étape particulière pour Danae?
Je pense que oui. Je pense que c'est un peu ça, c'est des phases, c'est des cycles, et puis chacune de ces rencontres-là représente une partie de sa vie, une étape de la vie, d'une certaine façon. Je pense qu'on peut comparer Enoch Martel à l'apprentissage un peu, à tous ces idéaux qu'on nous inculque quand on est jeune et qui ensuite nous guident pour le restant de la vie. Renaud Bertis, c'est la découverte de l'amour, de la passion et de tout le côté sombre qui vient avec ça, la colère et tout ça.
Alors, de la mer, vous écrivez, je cite, « La mer parle, il faut savoir l'écouter. Ce n'est pas un langage comme le nôtre, construit de syllabes et de voyelles qui se succèdent. Il faut être sensible au tableau qu'elle crée, à l'harmonie de sa cacophonie. Ce qui fait que la mer est la mer, c'est que toutes ces contradictions y existent en même temps. » J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que représente la mer pour vous?
En tout cas, dans ce projet-là, pour moi, la mer, c'était vraiment quelque chose de fascinant, notamment pour, justement, c'est ça, c'est tous les paradoxes que ça représente. J'avais envie de jouer avec les thèmes de la puissance et de l'impuissance. Et la mer, c'est ça, c'est extrêmement puissant. Ça peut tout détruire, la mer, quand une tempête se lève. En même temps, c'est quelque chose de très... Bon, c'est fluide, hein? c'est presque rien. Quand on y pense, c'est des gouttelettes d'eau, la mer. Donc, c'est ça, il y a toute cette puissance-là et aussi toute l'impuissance qu'on vit quand on navigue, parce que être sur un navire à voile, ben on dépend des courants, on dépend du vent, donc on est dans une situation d'impuissance, mais en même temps, c'est ça qui nous porte, c'est ça qui peut nous amener ailleurs. Donc, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de fascinant là avec l'océan et ce côté... Je pense que c'est ça aussi, c'est le danger et le potentiel que ça recèle. Naviguer, ça veut dire courir le risque de mourir, de mourir noyé. C'est quelque chose qui peut nous tuer, mais c'est aussi pour passer par là, pour atteindre l'ailleurs, pour se rendre plus loin, pour évoluer d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est ça que ça représentait, le toutes ces contradictions-là entre puissance, impuissance, danger potentiel et tout ça. Là.
Alors, pour une terrienne comme vous, l'écrivaine, je me suis demandé, avez-vous eu plus le goût d'ériger cette cité impossible, d'écrire cette île, de reprendre pied sur terre, si je peux dire, ou bien avez-vous eu plus de goût finalement à fréquenter les rivages, près de l'eau, près de la mer, ce lieu de récits et de potentielles tragédies?
Bonne question. Je pense que tout ce qui concernait les rivages, tout ce qui se passait sur terre, justement, comme vous l'aviez dit, je suis une dernière, non, je ne connaissais rien à la navigation avant. Donc, c'était un peu comme ma zone de confort. C'est là où c'était le plus facile de comprendre quand je faisais ma recherche. C'était là où c'était le plus facile de trouver des sources d'informations. C'était là où c'était plus facile d'imaginer un peu et de jouer avec tout ça à la base. Mais c'était justement quand je me plongeais dans des trucs plus complexes, plus marin, justement, qui se passait en mer, c'est là que j'en retirais le plus. Je pense que c'est là que j'apprenais le plus. Mm-hmm. Et je pense que c'est d'avoir justement osé lâcher le rivage et m'en éloigner qui m'a permis finalement d'arriver à construire cette île-là.
Alors, n'oublions pas dans ce fantastique roman d'aventure à rebondissements qui est passionnant de bout en bout sur 700 pages, n'oublions pas de parler du monde des femmes, des matelotes, des mousses, des pirates et des ouvrières qui occupent une place importante également dans le roman. Quel rôle leur avez-vous donné en général? C'est une grande question parce qu'il y a tellement de personnages, tellement de portraits. Comment avez-vous justement, quel rôle leur donnez-vous à ces femmes?
Je pense que ça dépend lesquels, évidemment, mais encore là, j'avais envie de mettre en scène les impuissants de ce monde et donc clairement les impuissantes. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose qui allait de soi un peu, là, quand on est dans un univers marin. Bon, j'ai beaucoup joué avec les superstitions, tout ça, donc j'ai installé dans un monde où les femmes étaient considérées comme des porte-malheurs sur les bateaux, donc elles étaient d'autant plus confinées au rivage puisqu'elles ne pouvaient pas ou très peu naviguer. Donc, ça contribue justement à leur donner le rôle de celles qui vivent un peu plus de misère et tout ça. Et même jusque dans la cité où on comprend que comme elles ne peuvent pas naviguer, elles ont moins l'opportunité de se faire valoir au combat, de se faire valoir de toutes sortes de façons. Donc, elles sont très rarement citoyennes. Elles sont généralement invitées. Donc, encore là, dépendantes du regard des hommes et de l'appréciation des hommes et tout ça. Donc, c'est un peu... Moi, je pense que j'avais envie de montrer de montrer un peu l'hypocrisie des fois du système dans lequel on fait croire qu'on vit là, alors que bien souvent c'est pas ça se passe pas comme ça dans la réalité.
Il y a des trouvailles fantastiques par exemple sur la Tristan, parce qu'il y a aussi beaucoup de bateaux, hein. Il y a quand même 700 pages, donc on pourrait trouver beaucoup de sujets, mais en tout cas sur la Tristan embarquent des femmes qui fredonnent ou chantent à tue-tête, on va dire des canailles qui embarquent pour piller et chanter, pour se faire passer pour des sorcières avec des grosses guillemets et échapper aux griffes de l'amirauté. Ça vous fait dire, je cite, « Une voix de femme n'était rien. Il fallait être plusieurs pour transformer les projections en projectiles, pour décupler la tessiture et la portée des tirs, pour s'immiscer dans toutes les craques, faire éclater les barrières, noyauter les cœurs durcis. » Alors les hommes et les femmes ne sont pas égaux sur l'IDIS, mais les femmes trouvent toujours moyen de s'en sortir ici.
Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est cette tension où les femmes réussissent à trouver des façons de contourner les règles. Je pense que c'est là qu'il y a une certaine forme de, comment dire, de cynisme qui ressort, dans le sens que, bon, oui, il y a moyen d'y arriver, mais c'est en se défaisant de nos idéaux, particulièrement dans la deuxième partie, je pense que c'est un peu ça, la désillusion de l'âge adulte, où on se rend compte que, bon, si on veut obtenir ce qu'on veut, ou du moins ce qu'on nous a promis, ben c'est pas vrai qu'il va falloir être blanc comme neige. Donc, je pense qu'il y avait un peu de ça dans les images. Dans l'image de la sirène aussi, qui est comme une métaphore qui revient souvent, surtout dans cette partie-là, où les choses sont ni blanches ni noires. Est-ce que les femmes doivent un peu être des sirènes pour arriver à leur fin, d'une certaine façon.
Oui, mais être une sirène n'exclut pas de se mettre en danger, bien évidemment, parce que ces femmes, pour la plupart, font partie des exclus, comme le sont les orphelins d'un monde elles sont orphelines d'un monde qui les ignore ou les exploite. Alors, il y a ceux et celles qui se rebellent, comme les sacripants, il y a celles qui se sacrifient, comme Alizé Quintal, ou encore une qui renonce, comme Léonore d'Arache et bien d'autres personnages, qui sombre dans l'alcool. Malgré tout, on sent que vous avez un regard lucide, mais un regard également tendre pour des personnages qui parfois peuvent être cruels, voire manipulatrices, mais manipulatrices pour survivre.
Oui, je pense que ça décrit bien un peu le mélange, un peu de... Effectivement, je pense que j'aime bien ce regard un peu de recul où on essaie pas de moraliser en disant ça c'est bien, ça c'est mauvais. Je pense que j'étais beaucoup dans l'idée de regarder ça avec un œil qui voit plutôt comme des cycles, autant sur le plan politique que sur le plan de la vie personnelle des gens et tout ça. Et encore là, comme je vois les personnages un peu comme des parties de moi-même, ben c'est sûr qu'il y a un regard un peu de... Je peux pas juste écrire pondre le bon et le méchant. Là, j'essaie de pondre toutes sortes de personnages qui représentent nos facettes, un mélange de nos facettes les plus sombres et en même temps de nos facettes les plus éclatantes. Là.
C'est votre deuxième roman aux éditions La Peuplade. Vous aimez les romans d'aventure. Alors, qu'est-ce qui vous plaît en particulier dans ce genre? L'évasion, le rêve, les héroïnes? Même si vous faites dire à l'un de vos personnages, je cite, « l'héroïsme est le mythe des pauvres et des incultes, de ceux qui n'ont rien d'autre que leur vie à mettre en jeu ». Le roman d'aventure, est-ce un moyen d'échapper à une vision du monde réductrice?
Bonne question. Je ne sais pas si je suis vraiment une fan de romans d'aventure comme tel. Moi, j'ai plus l'impression d'avoir emprunté au roman d'aventure que d'avoir... Je me suis pas levée un matin en me disant « je vais écrire un roman d'aventure ». Je pense que de façon consciente, je me disais beaucoup plus que j'allais écrire un roman politique d'une certaine façon. Mm-hmm. Très imaginaire, évidemment. Mais je sais pas, au fil de mes lectures, je pense que c'est beaucoup les thèmes, les images qui me venaient. Mais encore là, oui, c'est ça. Je pense que ce que j'aime, c'est tout simplement le storytelling. C'est juste, je sais même pas s'il y a un mot en français pour ça, mais c'est le fait de prendre, de transporter le lecteur et moi-même comme lectrice quand je lis, c'est d'embarquer dans une histoire et de plus vouloir la lâcher ou du moins de ouais, c'est ça. Puis je pense que pour moi tout ça c'est beaucoup. Ça, c'est que ça m'intéresse tant qu'il y a un deuxième niveau, d'une certaine façon. Donc, moi, j'aime le roman d'aventure quand il y a un deuxième niveau. Quand c'est juste une succession de péripéties qui pour divertir et qui, au final, tout finit bien, voilà. Ça m'intéresse pas tant, finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on utilise ça pour reconnaître nos propres vies et la société dans laquelle on vit, dans le fond. Mm-hmm. Donc, il y a un mélange de tout ça, un peu. Là. Je m'amuse avec les codes du roman d'aventure. Je m'amuse avec la notion d'aventure, même. Parce qu'il y a même un parti politique qui s'appelle les aventuriers, par l'opposition aux terriens. Mais, étrangement, c'est un roman d'aventure, mais pour moi, c'est pas un roman d'aventure.
Alors, justement, parlons de politique. Et pour finir, dernière question... Pour ne rien révéler également, parce qu'il s'agit aussi, on traite de révolution dans ce livre, les révolutions trouvent toujours leur façon, on va dire, elles passent parfois par des trous de souris. Vous faites dire à vos personnages, je cite, « je me rends compte que faire les révolutions, ça ne sert à rien, les empêcher y tout ». Pensez-vous que les révolutions sont comme la mer? Est-ce qu'elles gagnent tout le temps? Parce que vous ajoutez, on va tous chuter un jour. La seule façon de naviguer, c'est de l'accepter. Y voyez-vous un vent d'espoir, une résignation dans tout ça?
Oui, mais les deux, en fait. Je pense que c'est ça que ça coïncide avec un moment où c'est un peu ça la réalisation que j'ai eue. C'est qu'à un moment donné... je sais pas, c'est peut-être la vieillesse ou la sagesse qui commence à embarquer, avec cette impression que tout se répète un peu, que tout revient un peu, autant à l'échelle collective et autant sur le plan personnel, tout ça est vraiment, j'ai vraiment eu l'impression de voir une espèce de retour de balancier constant. Et est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ben c'est les deux, justement, puisque rien ne dure à part le fait que tout change. Donc oui, c'est ça. C'est vraiment je pense que ça c'est un peu ça que je voulais illustrer de la même manière que la mer, bon, que les marées se succèdent, ben est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? La marée haute, la marée basse? Ben on peut pas mettre de qualificatif là-dessus tant que ça. Là.
Voilà, nous ne savons pas encore si Danaé laissera son nom sur le nouveau vaisseau amiral de la flotte de la République issoise de l'île d'Is. Ce qui est plus garanti, en revanche, c'est que l'autrice ici signe un magnifique roman d'aventure maritime avec une couverture tout aussi splendide signée Stéphane Poirier. Les marins ne savent pas nager, par Dominique Scali, paru en 2022 aux éditions La Peuplade. Merci beaucoup Dominique d'être passé à Mission Encre Noire. Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, la première de la saison. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue en première partie d'émission Christian Quesnel et Ariane Gélina pour nous présenter l'album La Cité Oblique, paru en 2022 aux éditions Alto. Ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Dominique Scali est venu nous rendre visite pour nous présenter Les Marins ne savent pas nager, paru en 2022 aux éditions La Peuplade. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là.
Fedeu, acho que... Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava tão entupido.
Gostoso!
Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
Jorjão!
Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso tá bom.
Não, não. Cadê a cerveja que eu não sei?
Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
Agora um arame, um